Anselme Kiefer, bonjour. Alors nous engageons le premier de nos 5 entretiens à voix nue. Et d'abord, je vous remercie de vous être plié à ce long exercice dont on ne sait jamais très bien où il peut nous entraîner. Alors je voudrais commencer par cet entretien. Le premier sera consacré à des questions, disons, assez générales sur l'ensemble de votre travail et de votre parcours. Parce que votre œuvre, dans le fond, vous l'avez commencé il y a maintenant plus de 30 ans. Il me semble que c'est vers 1969 qu'il y a les premiers livres et les premières photographies.
68, oui.
68.
Oui, 68, 9, oui. Oui.
Et il y a d'autres œuvres avant 68 ?
Oui, il y a, oui, il y a. Mais ils étaient brûlés une fois.
Ah voilà.
Oui, moi j'avais laissé toutes mes œuvres dans l'académie où j'étudiais. Et je ne les voulais plus, parce que je n'étais pas intéressé. Alors j'ai tout laissé. Quand je partais pour une autre entreprise ou un autre cercle de ma vie, j'ai tout laissé.
Oui.
Alors, je crois que les étudiants, ça les a beaucoup embêtés, ils ont tout brûlé.
Très bien. Mais je crois d'ailleurs que vous ne gardez pas tout. Il vous arrive des œuvres, même déjà exposées dans des galeries ou des expositions, alors d'en garder beaucoup.
Oui, et je les transforme. Alors, ceux que je ne vends pas, parce que je ne vends pas tout, seulement ceux que j'ai besoin pour continuer, je le transforme toujours.
Oui.
C'est toujours un processus de transformation. Le métabolisme même.
Mais il y en a même que vous supprimez, que vous détruisez.
Non, je ne détruis pas. Peut-être un marchand d'art va dire c'est détruit, mais pour moi c'est pas détruit. Parce qu'une fois, vous savez, quand j'ai quitté l'Allemagne, j'ai fait une pile de tableaux, et je l'ai bien fixé qu'on ne peut plus les séparer, et puis j'ai exposé ça.
Oui, on en parlera de cette
Alors pour quelques-uns, c'était une destruction, pour moi pas.
De toute façon, depuis donc 68-69, il y a une accumulation considérable d'œuvres. C'est un flux continu, sauf une interruption sur laquelle on reviendra entre 92 et 95, 1992-1995 à peu près, et sur laquelle on reviendra. Mais c'est donc une création continue, mais le processus de votre création n'est pas linéaire. Je dirais qu'il est labyrinthique. C'est une sorte de labyrinthe, votre œuvre. Parce qu'il y a des parcours entrecroisés et simultanés de thèmes, de méditation sur des thèmes, et si bien que le même thème conduit à des œuvres très diverses, ou à des œuvres très proches, et que dans une même œuvre, ou un même motif, ou une même œuvre, peut renvoyer à plusieurs thèmes.
Oui, le labyrinthe, j'aime beaucoup, parce que ça dit que même les détours sont bien.
Oui, absolument.
Alors, parce que, vous savez, quand on s'est égaré dans une ville, c'est jamais un accident. On voulait aller ailleurs. Ça vous est arrivé ?
Mais alors quand même, le labyrinthe de votre œuvre est un labyrinthe, je dirais, un peu particulier. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce que je vais dire maintenant. Parce que ce labyrinthe, vous êtes celui qui le construisait, donc vous êtes Dédale. Vous êtes aussi parfois Icare, le fils de Dédale, qui cherche à s'en échapper. Et puis vous êtes aussi, par certains aspects, Thésée, celui qui le parcourt, mais aussi le Minotaure. C'est-à-dire celui qu'il faut réussir à détruire au cœur du labyrinthe. Vous êtes d'accord ou...
Oui, non, je suis d'accord que le labyrinthe a plusieurs aspects. Alors, l'aspect de celui-ci qui l'a construit, Minotaure, et celui-ci qui est captivé.
Pris
là-dedans, c'est clair. Hein.
Oui.
Parfois, il faut faire un effort pour sortir du labyrinthe, alors comme j'ai fait quand je sortais de l'Allemagne, peut-être.
Voilà, mais ça, on va y venir. Hein. Alors, je ne voudrais pas justement que nos entretiens soient biographiques. Hein. Ça ne sera pas l'homme et l'œuvre.
Attendez un moment. Le labyrinthe, ça m'inspire quand même. Alors, le labyrinthe, c'est bien parce que c'est le constructeur parfois. Et en même temps, je ne suis pas le constructeur, je suis ce qui est capturé.
Oui.
Parce qu'il y a toujours une interférence de ce qu'on construit, de ce qu'on veut faire et de ce qu'on fait en réalité après.
Oui.
Parce que chaque plan que je prends, quand je commence une œuvre, je fais un plan. Mais je ne suis jamais le plan.
Un plan, c'est-à-dire un plan.
Un plan, un concept.
Voilà,
une conception.
Oui.
Et mais jamais j'arrive au résultat que j'ai conçu.
Oui.
Et toujours un autre résultat. Alors, pour cette raison, l'image du labyrinthe, c'est très bien.
Je dirais, c'est le labyrinthe d'Égypte. Avait deux niveaux superposés. Et les deux, bien sûr, niveaux du labyrinthe n'étaient pas identiques. Et j'ai le sentiment que votre œuvre, au fur et à mesure qu'elle se développe, c'est un labyrinthe qui a deux, qui a trois niveaux, qui a quatre niveaux. Et plus on le parcourt, bon, j'ai essayé de le parcourir ces dernières années, plus on s'y reconnaît et plus on s'y perd.
Oui, c'est ça. Oui, on se dissolve, mais en même temps, on comprend mieux.
Oui. Alors, pour entrer dans ce labyrinthe, je me suis posé une question sur la date et le lieu de votre naissance et l'éventuel, sens rétrospectif qu'ils auraient pu avoir. Alors, je le dis rapidement à nos auditeurs, vous êtes né Anselme Kiefer en mai 1945, donc juste après la guerre, à la fin de la guerre,
non,
on va dire.
Pendant,
mais à l'extrême fin de la guerre.
À l'extrême fin, oui.
Et vous êtes né à Donaueschingen, si on dit bien, c'est-à-dire la petite ville qui est située à la réunion des deux rivières qui sont la source du Danube. Or, jusqu'en 1985, les thèmes allemands sont très présents dans votre œuvre, et en particulier les thèmes nazis, les références au nazisme, et également la source du Danube et le Zweistromland, c'est-à-dire la Mésopotamie, sont des thèmes récurrents dans votre œuvre. Alors, sans faire psychologie de bas étage, ma question est simple. Est-ce que cette date et ce lieu, 1945, la source du Danube, ça a eu rétrospectivement, à votre avis, pour vous, un sens ?
Surtout d'être né au conflux de deux fleuves qui forment le Danube, c'est quand même intéressant parce que c'est l'apparentique aussi, parce qu'il y a trois villes qui font le combat d'être à la source du Danube. Alors, il y a deux fleuves, c'est Prigar et Breg, qui forment le Danube. Et tous les deux petits villages qui sont sur un des deux villages, ils disent, c'est moi. Mais Donaueschingen, c'est la ville où il conflue. Et puis, alors, il y a toujours le combat. Alors, on ne sait pas certainement. Et en plus, il y a dans le parc des Fürstenberg, ce sont les ducs de Donaueschingen, il y a une source artificielle, un très beau bassin, où on prétend que la Danube sort. Alors, c'est intéressant, l'imprécision.
Mais surtout que le Danube est un fleuve européen, enfin,
C'est le fleuve le plus européen parce que vous savez, Charlemagne le Grand, il était marié avec Irène de Constantinople. Il y avait beaucoup de femmes, il avait 5 ou 7 femmes, Charlemagne le Grand, et il voulait faire un canal Rhin-Main-Donau. Vous comprenez?
Oui.
Alors, d'aller de Aachen à Istanbul, c'est intéressant.
Oui.
Et dans nos temps, je crois dans les années 70, ils ont fait en Bavière le dernier truc de ce canal. Mais il ne fonctionne pas économiquement. Il n'y a pas assez de bateaux.
Alors, autre question qui va un peu dans le même sens, et le sens, on va le voir venir assez vite. Votre nom, Anselme Kiefer. Kiefer en allemand, ça veut dire le pin forestier. Et certains critiques, même historiens, ont pensé que ce nom avait pu jouer un rôle dans votre image de la forêt allemande.
Oui, le nom joue toujours un rôle, je crois. Mais je crois que mon prénom joue plutôt un rôle.
Anselme.
Oui, c'est une famille de peintres, de juristes, d'avocats. Alors, il y a aussi un archéologue qui s'appelle Anselme. Il y a le philosophe Anselme Feuerbach. Alors, tous ceux, ils sont...
Il y a Saint Anselme.
Non, ça, c'est anglais, de Canterbury.
Oui.
c'est notre famille.
Oui. En fait, bon, ces questions sont légères, mais en fait, elles en visent une autre plus large. Je le formulerai de la façon suivante. Bon, maintenant, depuis une vingtaine d'années, vous êtes un artiste internationalement reconnu, exposé. On dit un Kiefer. On ne dit pas un Anselme Kiefer, on dit un Kiefer. C'est devenu, non pas un nom commun, mais le nom de tableau produit par Anselme Kiefer. Alors, à vos yeux, est-il absurde ou raisonnable d'évoquer un caractère allemand de votre art ou de vous qualifier d'artiste allemand? C'est absurde ou raisonnable?
Non, ce n'est pas du tout absurde, parce que je suis né là, j'ai pris ma formation et... certainement, je suis allemand. On peut pas dire que non. Mais avec le temps, comme on dépasse une famille, on dépasse aussi une nationalité et on devient cosmopolite plutôt.
Oui, parce qu'on a le sentiment, quand on regarde dans la durée votre travail, que c'est plutôt au début, c'est-à-dire dans les années 70, que plusieurs de vos œuvres opposent une approche internationale de l'art, en particulier américaine, et les minimalistes. Je pense à Judd en particulier, a une culture, une peinture de tradition allemande. Je pense au livre que vous avez fait, Donald Judd Heights, Brunhilde.
Oui, mais ça, c'était plutôt ironique.
Oui.
C'était plutôt pour montrer que dans les caisses de Donald Judd, il n'y a rien.
Oui.
Alors, vous vous souvenez de ce livre, j'ai mis des pornos là-dedans, des femmes comme ça, pour ironiser un peu ces caisses. Et j'étais toujours très conscient de ce qu'un artiste européen peut faire vis-à-vis de l'art américain dans ce temps-là.
Vis-à-vis, c'est-à-dire en face d'eux,
oui,
avec et contre.
Oui, ou même séparés. Ou, oui, parce que l'art américain, alors ça vient d'abord de l'Europe. Alors le Bauhaus était excellé, Mies van der Rohe, etc. Et Hoffmann, le professeur de tous les peintres américains célèbres maintenant. Et aussi le Japon. Parce que vous avez le minimalisme. Ça ne vient pas des Américains, ça vient du Japon. Mais c'est intéressant parce que normalement, on croit tout sort de l'Europe. Et ça, c'est l'envers, parce que ça vient de l'autre côté du monde.
Alors, dans les livres de ces années 70, à part Donald Judd Hyde's Brunhilde, il y a deux autres livres, je trouve, très significatifs de ce départ, de cette prise de position. C'est Cole chez Kiefer.
Oui.
Qui est une ironie aussi très drôle, c'est un livre très amusant, où Cole, donc, supposé être un ami d'atelier, non pas le chancelier, mais un ami étudiant d'atelier, vous rend visite, et il est représenté sous la forme de 4 ou 5 énormes poutres noires qui n'arrivent pas à prendre leur place dans l'atelier de Kiefer, parce qu'il y a un désordre bohème, il y a le petit soldat sur la table, il y a tout le désordre
de
la bohème.
C'était un élève avec lequel je didiais, et puis comme les contraires m'attire toujours, comme je suis moi-même très ambigu, ça m'a fait beaucoup de plaisir de prendre ces trucs minimalistes. Il était vraiment minimaliste. Hein. Il a frotté ses surfaces pendant des semaines et de le opposer au chaos, si on veut.
Alors, vous avez dit plusieurs fois, dans plusieurs entretiens antérieurs, votre admiration particulière pour Warhol et Duchamp. Et on a aussi rapproché certains de vos tableaux de Pollock.
Oui.
Est-ce que vous êtes d'accord sur Pollock en particulier?
Oui. Oui, je suis d'accord parce que j'aime beaucoup Pollock. Je ne vois pas très clair une vraie...
liaison
ou... Par influence.
Influence.
Influence, oui. Je ne vois pas. Mais c'est un grand peintre.
Oui. Donc, il y a certains de vos tableaux, je pense à certaines versions des maîtres chanteurs, qui évoquent effectivement Blue Pole de Pollock.
Oui, peut-être ils ont...
C'est une rencontre.
Oui.
Oui. Oui. Mais alors, il y a même Peter Sheldahl a écrit en 1988 dans Art in America un texte sur vous qui s'appelle Our Kiefer, notre Kiefer, et il dit que vous êtes, je le cite en traduisant, un peintre de type américain. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je dis oui, je suis allemand. Et qu'est-ce que vous pensez de cette formule de Sheldahl?
Alors, je me souviens pas de ce texte, que ce qu'il voulait dire américain. Qu'est-ce qui est américain? Alors,
Eh bien, c'est-à-dire qu'il rapprochait votre travail, en particulier de Pollock, de la grande dimension, et également d'une forme d'action, de fabrication, laissant très sensibles les traces du travail, et que de tous les peintres européens, disait-il, vous étiez le premier à avoir vraiment compris l'art américain des années 70, enfin 60 et 70.
Oui, alors ce que j'ai dit sur Warhol, c'est vrai que, parce que ce qui m'a toujours plu chez Warhol, surtout dans ce qu'il a dit, dans ses entretiens, c'était son art était tellement fin, fin. Alors, la beauté était si fin qu'on y va, on se plonge là-dedans. C'est presque rien. Et ça m'a beaucoup plu parce qu'il a poussé l'ironie ou le cynisme à un point où ça... Ça impressionne, ça fait quelque chose.
Alors, en fait, quand on regarde dans votre œuvre, que ce soit les livres, les tableaux, les sculptures, les photographies, il y a beaucoup de noms, de personnages, qu'ils soient artistes, écrivains, politiques, etc. Il y a un seul artiste contemporain qui est nommément cité, et dont le nom est écrit au moins à 2 reprises, c'est Joseph Beuys. Son nom apparaît dans le livre « Pour jeûner » de 1969, et dans le grand tableau « Les héros de la spiritualité allemande » de 1973.
Ouais.
Il y a une admiration particulière pour Beuys, alors
C'était surtout une ligne que je voulais faire. Alors, dans ce livre, il y a aussi Frédéric II.
Le grand Frédéric II.
Frédéric II. Et ça traverse Richard Demel et les romantiques, et puis ça finit par Beuys. C'était plutôt pour marquer cette ligne.
Oui, on lit que vous avez été élève de Beuys.
J'étais élève dans un caractère plus général. Alors, je vivais pas à Düsseldorf. J'étais toujours dans la forêt. Et de temps en temps, je prenais ma voiture et j'enroulais mes tableaux qui étaient un peu grands et mettais sur le toit et je les conduisais à Düsseldorf pour les lui montrer, pour savoir ce qu'il en pensait. Mais je n'étais pas habitant, je n'étais pas dans l'académie vraiment.
Je voudrais revenir maintenant à des... essayer de reprendre ce parcours par un autre bout. Alors en 92, 93, vous quittez l'Allemagne. Hein, vous voyagez à travers le monde.
Oui.
Où ça? Dans quel pays? Partout.
Oui, en Mexique, en Chine, en Thaïlande, Népal, Pakistan, Inde. Oui.
Et puis, en
Japon,
93,
Australie. Oui. N'oubliez pas Australie.
Dans le tour du monde. Bon. Et en 93, vous installez en France, à Barjac.
Oui, mais pas encore. Je m'installe, mais je repars pour des voyages.
Alors pourquoi? Dans le fond, d'abord ce départ de l'Allemagne. Pourquoi vous êtes parti d'Allemagne? Vous avez quitté, c'est une rupture.
Moi j'avais l'impression que maintenant il faut faire autre chose, il faut faire une rupture. Parce que le danger c'est toujours dans l'art quand ça devient de plus en plus facile de faire un tableau. On le fait comme ça, et il n'y a plus la résistance, il n'y a plus le problème, et on oublie le problème.
Et vous pensez que le fait d'avoir quitté l'Allemagne pour la France a aidé à reposer les problèmes?
Ce n'était pas d'abord pour la France, c'était quitter. Alors d'abord, j'étais un peu à New York et j'essayais de trouver quelque chose en Écosse. Alors partout, je cherchais. Je faisais des ateliers partout dans ma tête. Alors c'était quitter ou faire une rupture. Plutôt personnelle que politique.
Oui, ça n'a pas de lien, ce départ d'Allemagne, cette rupture avec l'Allemagne. Vous y retournez en Allemagne, de toute façon?
Non, presque pas.
Presque pas. Non. Donc c'était bien, effectivement, une mise à distance.
Ah oui, non, quand j'ai fait une rupture, j'ai fait une rupture. Oui. Alors j'ai tout laissé, j'ai tout vendu, et j'ai plus rien là-bas.
Ce qui est intéressant, c'est que cette rupture, certains ont eu tendance à la rapporter à la chute du mur de Berlin en 89, et 3 ans plus tard...
Oui, c'est une question comme la question avec le nom de Kiefer. Hein, oui. Vous avez...
Alors, deux mots sur Barjac. Quand on va voir votre atelier à Barjac, on est évidemment impressionné, parce que c'est une ancienne filature, donc un bâtiment immense, en L, au sommet d'une colline. Je crois que votre atelier fait 60 mètres de long.
Il y a plusieurs. Oui. Non, 60 et des autres 40. Et...
Voilà,
oui.
Donc vous avez la place. C'est un immense atelier. Et d'ailleurs, qu'un atelier qui est un chantier, autant qu'un atelier.
Oui, c'est un chantier perpétuel. Oui. Ça finira jamais d'être un chantier.
Mais il arrive même quand on vient vous voir qu'on marche à l'intérieur de l'atelier, entre guillemets, on marche sur des œuvres en cours.
Oui. Et je ne travaille pas seulement avec mes pinceaux, je travaille avec une pelle, des camions, des trucs. Je travaille avec des choses mécaniques aussi. Hein. Oui.
Et en même temps, cette filature est au milieu d'un immense terrain, d'un très grand terrain. Enfin, oui, un vraiment grand terrain. Et je voudrais, là, aujourd'hui, pour conclure ce premier entretien, que vous me parliez un peu des sous-sols de Barjac. C'est-à-dire, d'abord, les caves, les entrepôts de la filature, où vous entreposez, mais vous classez très précisément les matériaux, les plantes séchées, les objets, oui. Etc.
Oui, quand je voyage, je ramasse les choses, des plantes... des corails, des n'importe quoi, des choses parfois ou des vieux tuyaux que je vois aux Indes, par exemple. J'ai ramassé pas mal de très anciens tuyaux, des trucs qui me servent un jour.
C'est ça.
Et c'est classé dans le sous-sol. C'est un peu les cerveaux. Normalement, les cerveaux sont au-dessus, dans le grenier. Cette fois, ils sont en bas.
Oui, d'ailleurs, vous avez fait un tableau, je crois, en 98, enfin, plusieurs versions d'un immense tableau. Enfin, il y a des versions différentes, plus ou moins grandes. Mais je crois qu'une des plus grandes versions horizontales fait 9 mètres de large, quelque chose comme ça. C'est Sternenlager, c'est-à-dire dépôt d'étoiles ou camp d'étoiles. On sera peut-être amené à en reparler.
Oui, c'est un peu paradoxe, Sternenlager. C'est paradoxe et pas paradoxe, parce que le monde, alors le cosmos, c'est un dépôt aussi. Mais... pas tout est matérialisé. La plupart de la matière est dans des rayons, comment dit-on ?
Des ondes.
Des ondes, c'est pas réalisé, c'est pas matérialisé. Alors, si on dit Sternenlager, je pense à ça.
Ce qui est intéressant, c'est que dans le Sternenlager, donc ce dépôt d'étoiles, on l'appellera comme ça aujourd'hui.
Alors, les étoiles, ce sont les quantités petites comparées avec la quantité de, de possibilités dans le cosmos.
Alors je décris rapidement à nos auditeurs cette version du tableau, il y en a d'autres versions, mais donc un tableau très large, très haut aussi, mais beaucoup plus large que haut, et qui vraiment représente en quelque sorte les caves de Barjac, qui est donc votre dépôt d'étoiles à vous aussi, puisque quand on l'a vu, on reconnaît immédiatement, et avec des tiroirs, chacun avec son numéro, sa lettre et ses chiffres qui sont... Après, sa lettre et ses chiffres représentent les classifications des étoiles.
Oui, j'ai ça de la NASA. On dit en France NASA ?
Oui, NASA. Oui.
Alors, ils m'ont envoyé un catalogue avec toutes les étoiles. C'est énorme. Et il y a des chiffres très longs, comme ça. Et chaque chiffre représente alors, la couleur, la distance, la gravitation, etc., de toutes les étoiles. Alors, c'est un chiffre professionnel que je mets au-dessus.
Donc, nos auditeurs doivent imaginer ces chiffres vus en perspective. C'est une perspective centrale, tout à fait classique, et qui est immense. Bon, et ces chiffres sont innombrables, et on finit par ne plus pouvoir les lire. Et au bout de la perspective, il y a deux objets intéressants. Il y a une échelle, qui alors elle n'est pas... dans l'atelier, parce qu'on sent que cette échelle permet de monter ailleurs. Et autre chose qui peut s'y trouver et qui est accroché à la voûte de l'atelier, un polyèdre irrégulier qui, bien sûr, est celui de la mélancolie de Dürer. Oui. Alors que viennent-ils faire là ?
C'est quelque chose pour vous.
Oui, bien sûr. Pour ça que je l'ai remarqué.
Parce que c'est une feuille de Dürer, un etching.
Une gravure.
Une gravure qui est tellement connue, qui n'est pas très, très charmant, hein. Pour moi, pas très beau, mais c'est tellement... Il y a des bibliothèques au-dessus, hein, des historiens d'art qui ont écrit des immenses, comme sur le grand verre de Duchamp.
Plus encore,
oui.
Sur Dürer.
Toutes les deux œuvres, je ne peux rien faire avec, je vous avoue. Mais c'est intéressant d'en profiter parce que c'est tellement connu, c'est un truc. Et ce polyéder, c'est suspendu là. Et c'est, pour moi, c'est la représentation de la mélancolie.
De laquelle mélancolie ? Celle de l'artiste.
De Dürer.
Celle de l'artiste. Donc.
Oui. Dans ce temps, on a cru que sans mélancolie, un artiste ne peut pas produire. Des Schwarzgalle.
Oui, la bile noire.
La mélancolie. Oui, et l'échelle, c'est aussi sur ce etching, cette gravure de Dürer, il y a aussi une échelle.
Absolument, mais c'est vrai. Oui. Mais l'échelle aussi dans votre œuvre.
Oui, ça c'est très important. Il y a beaucoup d'échelles.
Oui.
Ou d'escaliers, etc.
Oui, et l'échelle par exemple dans le Songe de Jacob.
Oui, Songe de Jacob ou dans Resurrexit.
Oui.
Là c'est une escalier.
Absolument.
Un escalier de poids. Oui.
Et donc voilà.
Non, dans tout l'alchimisme, il y a l'échelle, toujours. Mmh. Toujours.
Et alors, ces caves, ces entrepôts, c'est une sorte de mémoire de votre œuvre, de mémoire de votre œuvre en cours et de préparation de l'œuvre.
On pourrait dire aussi que c'est un endroit où il y a des points de cristallisation ou de matérialisation d'une énergie. Les points ne sont pas encore connotés, ils ne sont pas encore liés parce qu'ils sont dans des tiroirs et c'est mon travail d'un jour de les coordonner tout.
Et vous la visitez de temps en temps ? Vous savez ce qu'il y a dedans ?
La cave est dans ma tête.
Hein. Voilà, c'est un peu ce que j'imaginais.
Non, je ferme les yeux comme ça un peu. Par exemple, je cherche, un petit avion de plomb que j'ai fait il y a 30 ans. Alors, je ferme les yeux, je marche et puis je l'aurai.
Alors, en ce moment... je ne parlerai pas des containers hein, qui sont à l'extérieur, dans des hangars, qui sont pleins de tableaux, qui sont ou finis, mais qui ne sont pas vraiment finis parce qu'ils sont en fait en cours.
Oui.
Et vous m'avez expliqué une fois qu'il vous arrive de reprendre, 10 ans après,
plus.
Un tableau, même plus.
Ah non, j'ai des trucs de 70, 73, 60, oui.
On reviendra sur ce rythme dans un autre entretien. Je voudrais juste terminer celui d'aujourd'hui par une dernière question. J'ai vu, la dernière fois que je suis allé vous voir à Barjac, que depuis un an, vous construisez à Barjac. C'est déjà immense, mais vous construisez sous le sol. C'est-à-dire, vous creusez des tunnels, c'est une sorte de labyrinthe souterrain, et par lequel on ressort, il y a un endroit où il y a un étang souterrain dans du plomb, une chambre en plomb avec de l'eau, avec une lampe, ensuite on ressort, il y a des serres transparentes avec des œuvres qui attendent, etc. Sur quel chemin est-ce que Dédale Kiefer est en train de s'engager ?
Alors pour le moment, le projet s'appelle Sefer Echalot.
Ah, c'est, le palais du ciel.
C'est le concept de construire les 7 palais célestiales.
Oui, céleste.
Céleste. Et pour ça, alors je suis entré dans la terre. J'ai acheté des tunnels qu'ils prennent pour faire les ruisseaux au-dessous des autoroutes. Très, très simple, très beau, très primitif. Et avec ça, j'ai percé la terre. Et puis, on remonte dans une serre pleine de lumière. Alors, c'est un palais.